Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour à chacun d'entre vous qui nous rejoignez pour cette nouvelle vidéo. Et j'aimerais justement aborder un sujet peut-être peu fréquemment envisagé, mais c'est une question de comportement, une affaire comportementale avec, dans nos relations avec les uns et les autres, nos frères, nos sœurs. Et nous allons donc prendre un texte dans le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre d'histoire du Nouveau Testament, de l'Église première, et au chapitre 15, nous avons donc deux versets sur lesquels nous allons nous entretenir. Alors, je répète, livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, d'abord le verset 19, où je lis ceci: « C'est pourquoi, nous dit Paul, je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Jésus-Christ. » Alors, on l'a compris, c'est avant tout, quelques recommandations du grand apôtre dans les églises pour que ceux qui deviennent chrétiens, quelle que soit leur origine religieuse, qu'on ne leur mette pas d'obstacles à leur cheminement et à leur développement. Alors ça, c'est le premier verset. C'est pourquoi je suis donc d'avis qu'on ne crée pas de difficultés. Et puis un peu plus loin, un peu plus bas, il est question d'un autre passage. Il est dit « Il nous a paru bon » à Paul, aux disciples, « Il nous a paru bon au Saint-Esprit et à nous-mêmes de ne pas imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Alors nous avons des mots-clés à travers notre texte, nos deux textes, et j'aimerais justement titrer ce message « Les conciliateurs, voire même les réconciliateurs », et on retiendra le mot « conciliateur », « les conciliateurs de paix et de justice ». Il y a un correspondant, un synonyme que nous n'utilisons pas très souvent, mais dans notre monde moderne aujourd'hui, on peut utiliser ce terme, soit en matière de justice ou en entreprise, ce sont les facilitateurs. Facilitateurs, des gens qui ont cette capacité d'accompagner les autres pour leur permettre de réussir. Facilitateurs de croissance spirituelle. Alors, je reprends le thème de l'apôtre Paul quand il dit ceci, qu'on ne crée pas de difficultés à ceux. Alors bien sûr, on a vu qui étaient ceux-là, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Que les chrétiens dans les églises, que ce soit des gens qui se tournent vers Jésus-Christ nouvellement, ou que ce soit nos frères et nos sœurs, peut-être plus âgés, mais plus faibles, plus fragiles, qu'on ne leur crée pas de difficultés. C'est une sage recommandation. Et le texte cadre que j'y ajouterai, ça serait celui-ci, l'exemple de Paul quand il dit ceci, « Je me suis fait toute à tous, avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, je me suis fait aussi pour pouvoir leur parler, pouvoir leur faciliter finalement leur chemin, leur demi-tour, parce que c'est un véritable demi-tour pour un Israélite de se convertir à Jésus-Christ, il faut bien reconnaître. Avec ceux qui sont sans la loi, je me suis fait moi-même sans la loi. Avec tous ceux qui ont toutes sortes de difficultés, j'ai essayé de les aider et de les comprendre et de les encourager, on peut dire cela. Donc, il est question de tolérance. Il est question également de bienveillance et il est question de les respecter aussi. Ils ne sont peut-être pas au même niveau moral ou spirituel que nous, mais je pense que c'est une recommandation. D'ailleurs, dans l'exemple de Jésus, que ce soit avec les pharisiens, que ce soit avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie, on peut dire que Jésus s'est fait tout à tous, hein, naturellement. Hein, voilà. Donc, j'aimerais illustrer cela à travers une petite anecdote. C'est une image, hein, tout simplement. Prenons un artiste de grand talent, réputé, qui termine une œuvre d'exception. Voilà. Hein, on a appris qu'il faisait quelque chose de tout à fait particulier. Alors, il y a un homme qui pousse la porte de son atelier et il vient voir l'artiste en lui disant « Bien, écoutez, je me propose d'améliorer ce que vous venez de faire. » Voilà. De donner quelques touches qui vont apporter quelque chose de plus beau, de plus grand de ce que vous avez fait. Et il se propose donc, là, devant le maître, qui a déjà fait une belle œuvre, eh bien, de faire quelques petites rectifications selon lui. Certes, dans un désir de l'aider. Hein, il n'est pas là pour casser, finalement, le travail, mais de dire, mais écoutez, moi, je pense que c'est mieux comme ça. C'est encore mieux comme ça. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela. Et c'est toujours naturellement dans cet état d'esprit. Alors, on devine aisément, on peut le dire, ce que l'artiste fait suite à la proposition impromptue du visiteur. Il va tout simplement lui dire, eh bien, tout simplement, on peut le deviner ce qu'il va lui dire tout de suite. Hein. Il va intimer immédiatement au visiteur, on n'a pas à en douter, eh bien, de prendre la porte immédiatement. Hein, je crois qu'il va lui dire, écoutez, je ne vous ai rien demandé, hein, vous venez pour essayer là de je ne sais quoi faire, mais de toute manière, je ne vous ai rien demandé. Alors, la règle d'or relationnelle que nous pouvons avoir avec les autres pourrait être celle-ci. Si l'on vous demande quelque chose, répondez. C'est simple, hein, ça va être très, 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 très simple à comprendre. Alors, voilà, répondez. Si on ne vous demande rien, taisez-vous. C'est simple, hein. Il n'y a pas trop de complexité. Alors, on sait très bien que la loi de Moïse, et on a la Bible pour le juger et constater, n'était faite que de « fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Et c'était un message qui se passait les uns les autres, c'était très cadré, c'était très... une méthode, tout simplement, voilà, si on a compris ce que ça veut dire, hein. « Fais pas ceci, fais pas cela ». Qui était pleine d'interdits, qui était pleine de défense, de prévention, d'ordre, de commandement, sous peine de sanction. Attention, voilà, hein, ne marche pas à côté des plates-bandes, reste bien dans la ligne, hein, qui est définie. Hein, et je crois que c'était une façon de canaliser, d'imposer, c'était une imposition, on pourrait peut-être le dire de cette manière, ayant très souvent à des coutumes, et à des habitudes religieuses. Ça, c'était ça en Israël, hein, particulièrement. Remarquez, vous allez me dire, tous les codes qu'il y a dans notre société moderne, et heureusement qu'ils existent. Parce que, déjà, c'est le bazar. Qu'est-ce que ça serait autrement? Mais bon, c'est préventif, hein, c'est pas pour punir, c'est pas... Mais au contraire, c'est pour, eh bien là, donner un certain ordre dans la société. Alors, ces coutumes et ces habitudes, nous les retrouvons naturellement, elles sont culturelles, où elles sont religieuses. Et je voudrais quand même constater que dans nos églises, hein, ce sont souvent des habitudes, en effet, imposées, c'est comme ça. Même si on ne vient pas vous dire les choses, mais toujours est-il qu'on va essayer, de, par le silence ou par certaines choses, de vous faire comprendre que vous marchez à côté. Hein. Donc, ces coutumes et ces habitudes. Je voudrais faire une remarque, ça serait celle-ci. Ces façons de faire pour diriger la vie d'autrui, pour diriger la vie des autres, sont des attitudes familières. Hein, c'est pas quelque chose que... C'est fréquent dans nos communautés, dans nos milieux, auxquels les chrétiens recourent vis-à-vis d'autrui pour leur montrer comment ils doivent vivre. Voilà. Hein, voilà. Comment ils doivent vivre, comment ils doivent penser... Choisir de s'aligner au statu quo de la majorité. Comme ça, tout le monde sera tranquille. Hein, alors, à ce moment-là, c'est presque de l'enfermement, c'est du casernement, c'est, en effet, là, il n'y a pas autrement si on s'identifie de cette manière. D'ailleurs, dans le monde, même dans le monde à l'extérieur. Les boulangers sont habillés de la même manière, les bouchers de la même manière, les médecins peut-être pas, pour moi c'est autre chose, mais les militaires, etc., etc., les ecclésiastiques, on est normalisé quelque part. Hein. Moi je ne porte pas de soutane, hein, je tiens quand même à le dire, et je ne suis certainement pas prêt à... Voilà, mais on vit dans la liberté en tous les cas. Bon, la parole de Dieu nous invite à la prévenance, au respect, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la bienveillance, d'essayer de faire au moins un minimum d'efforts pour comprendre les autres. Alors, dans mon propos, il n'est pas question du péché grossier, il n'est pas question de faire la révolution, etc., etc. Il est question de normaliser dans les choses habituelles, la vie quotidienne, hein, tout simplement. Alors, donc, voilà. Dans Thessaloniciens, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui est oublié parfois des chrétiens, dans 1 Thessaloniciens, je précise, au chapitre 4, vous pourrez relire le chapitre, c'est intéressant, et Paul dit ceci, de ne pas s'ingérer, tout simplement, dans les affaires d'autrui. Et dans ce Thessaloniciens également, dans Pierre, de ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui, mais également, il est dit, exhortons-nous à abonder dans l'amour, à mettre votre honneur à vivre tranquille, et puis à vous occuper de vos propres affaires. Voilà. Hein? Surtout si on ne vous demande rien. Il y a des gens qui demandent au secours, qui appellent au secours, qui sollicitent, venez m'aider parce que je suis en difficulté. Alors à ce moment-là, là, on a tout le champ libre puisqu'il y a une demande. Mais quelquefois, il y a ce malin plaisir, je ne sais pas si c'est le mot, mais de vouloir un petit peu gratter de droite et de gauche pour... Ah oui, je pense que le Seigneur m'a montré que j'ai prié pour toi, alors il faut que... Voilà. Alors là, on n'en sort pas. Et on comprend que ce texte du livre des Actes, Paul a voulu le consigner pour, eh bien, les chrétiens de tous les temps, pour leur montrer, soyez prudents, ne vous occupez que de vos propres affaires et pas celles des autres, celles d'autrui. Alors il faut que nous fassions attention à notre comportement normatif, instinctif normatif, de vouloir formater tout simplement parce que nous pensons ça. Nous pensons que nous sommes véritablement les seuls et uniques, hein, les meilleurs. Ben, ça c'est l'état d'esprit naturellement, eh bien, ce que l'on peut appeler les pharisiens. Donc ce comportement formatique qui fait plus de dégâts qu'il n'avance le progrès, ou les progrès de nos frères dont on croit devoir s'occuper, dont on veut y mettre un petit peu le grain de sel, c'est-à-dire avec quelques conseils, et parfois les redresser. C'est ça le sujet que nous abordons ce matin. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment, comme ce visiteur qui vient chez l'artiste et qui lui dit « Écoute, elle est belle ta statue, il est beau ton tableau, mais donne-moi quelques pinceaux et puis je voudrais réajouter quelque chose parce que ça manque ». Ça manquait peut-être pour lui, pour l'artiste, mais il avait sa vision, oui. Et il avait déjà terminé le travail, hein, quelque part. C'est vrai que ça part spirituellement d'un bon sentiment, et nous sommes exhortés, mais ce n'est pas toujours inspiré dans le temps et dans la forme. Et c'est là où nous avons besoin, non seulement de nous supporter les uns les autres, mais plus encore, c'est l'étage au-dessus, hein, c'est de nous aimer les uns les autres, à tel point que notre amour doit veiller à faire attention à ne pas... Eh bien là, faire des choses qui peuvent blesser, qui peuvent meurtrir, et qui peuvent couper finalement une vocation et casser même peut-être eh bien, le salut. Hein, c'est un seul. Alors, nous avons besoin de comprendre et de nous le dire de temps en temps, cessons de vouloir améliorer. Cessons de vouloir rectifier et de perfectionner l'œuvre de Dieu. Je dis bien, l'œuvre de Dieu dans la vie des autres, sinon... Ça sera une contradiction avec la parole de Jésus à la croix. J'ai tout accompli. On comprend ? C'est clair, hein ? On comprend. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Qu'est-ce que moi, petit chrétien que je suis, je peux ? Parce que là, c'est l'œuvre de Dieu que je touche. C'est pas seulement la personne qui croit, finalement, qui a accepté Jésus-Christ. Mais c'est toute une œuvre invisible qui se fait dans la vie de ce chrétien, et qui, quelque part, eh bien là, est à la disposition et à la soumission du maître. Et moi, je ne suis pas un maître. Alors, c'est important de pouvoir le souligner. Je n'ai pas à vouloir perfectionner, redresser ceci ou cela. Alors, attention de ne pas formater selon nos vues, et nous commettons à ce moment-là un délit d'ingérence. Eh oui, vous savez que ça existe dans le monde. Il y a des gens qui se mettent le nez où il ne faut pas, et puis qui sont en train de... Oh, quel monde dans lequel on est aujourd'hui, où il n'y a pas une affaire, où il n'y a pas un fait divers, où chacun y amène un petit peu son grain de sel, et ça fait des histoires pas possibles, et souvent ça se termine au tribunal, hein, avec des procès, enfin avec toutes sortes de choses. On n'est pas dans un monde apaisé, et dans un monde de quiétude, serein, parce que finalement chacun y va un petit peu avec ses idées, il paraît que ça s'appelle la démocratie. Hein, moi, je pense que c'est une belle chose, la démocratie. Mais s'il n'y a pas le respect des autres, s'il n'y a pas la tolérance, parce qu'il y a des... À chaque individu, il y a une différence, c'est normal. Hein, mais de vouloir dire, eh bien voilà, c'est comme ça que tu dois penser, c'est comme ça que tu dois faire. Alors, j'aimerais que nous allions un peu plus loin. J'aimerais rappeler, c'est un enseignement ce matin, hein, mais ça vaut pour tout. Hein, ça peut être de l'évangélisation, ça peut être aussi un rappel pour certains qui quelquefois souffrent de ce que d'autres s'occupent de leurs propres affaires et qu'ils trouvent une consolation et peut-être une affirmation d'eux-mêmes en disant « bon stop, hein, ça, on ne va pas plus loin, hein, tout simplement. Hein. » Alors, c'est un rappel, j'aimerais faire un rappel de quelques principes de bienveillance entre nous. Voilà, hein, entre nous. Faire tout afin de ne pas créer d'obstacles. Qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure? C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux, et ils sont nombreux, sous différentes sortes, différentes formes, différentes expressions. Je suis, en effet, à ne pas créer, de faire d'obstacles à... Quand dans la Bible, Jean-Baptiste dit, par rapport à la venue de Jésus, « Préparez le chemin pour le peuple ». Frayer la route et ôter les pierres, c'est Jean-Baptiste, mais aussi inspiré du livre du prophète Ésaïe. Ôter les pierres. Quelquefois, on a peut-être vu des situations navrantes, profondément attristantes, où des chrétiens d'un certain âge, spirituels, ont voulu quelquefois, et bien là, faciliter la vie et le chemin, et au lieu de leur faciliter le chemin, la marche, eh bien, ils ont fait des méandres, des zigzags, toutes sortes de choses. Ôtez les pierres. Ne mettez pas d'obstacles. Parce qu'une pierre pour nous, c'est peut-être autre chose vue par l'autre, naturellement. Hein. Alors, c'est pas la peine. Et puis, il y a cette parole également dans la Bible, dans l'Ancien Testament. C'est une injonction. Tu ne mettras pas devant l'aveugle rien qui ne puisse tomber. Ne soyez pas des sujets de scandale. D'une manière ou d'une autre, il y a des choses que l'on peut... véritablement créer le scandale dans la conscience et dans l'esprit de frère, parce que pour nous, c'est scandaleux, mais peut-être pour lui, c'est peut-être pas la même chose, on connaît pas sa vie, on connaît pas son passé, on connaît rien, de toute manière, et de lui dire, tu sais, je te donne un conseil d'ami, ben, quelquefois, il y a certains conseils d'amis, eh bien, ils ne devraient pas être donnés, hein, parce qu'on a fait du mal, hein. Surtout sur des choses qui n'étaient pas des principes essentiels mauvais, qui n'étaient pas des choses qui avaient trait au péché, caractériser, mais des choses secondaires. C'est des formes, ça ne touche pas le fond. Ce sont des formes, et les formes, eh bien, vous savez, quand on veut les modeler, ça se déforme, hein, ça c'est sûr. Hein. Et je crois que ça peut être préjudiciable. Un bébé demande beaucoup de soins. Hein, bon, pour toutes les mamans qui ont élevé des bébés, elles savent ce que c'est, hein, parce que c'est pas seulement le jour, hein, mais, hélas, la nuit, voilà. Et c'est... Alors, il y a des bébés qui sont tranquilles. Nous, on a une petite fille, elle était magnifique. Elle ne nous dérangeait jamais. Elle est grande maintenant, hein, elle n'est plus bébé. Hein. Mais bon, toujours est-il, elle a gardé son caractère. Mais il y a des parents qui souffrent aussi avec des enfants difficiles. Parce qu'ils pleurent, parce qu'ils ont faim, voilà, parce qu'il y a, il y a toutes sortes de choses, et c'est normal. Et on n'y revient pas sur ces choses-là, c'est normal. Un rappel, n'oublions jamais que nous avons été nous-mêmes des bébés dans la foi. Eh oui, les débuts de notre conversion, les débuts de notre marche, avec nos craintes, avec nos peurs, avec nos cris, avec nos pleurs également. Hein. Seigneur, pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Nos fragilités, enfin bon, nous avons été des bébés dans la foi. Et vouloir hâter, parce que c'est souvent ça, vouloir forcer... Le développement d'un enfant laisse des traumatismes à un moment donné. Chaque jour suffit à peine, même pour un bébé. Les choses viennent en leur temps. Il y a un temps pour tout sous le soleil, nous dit également la Bible. Alors vouloir hâter et forcer le développement d'un enfant, finalement, parfois peut provoquer des abandons, des retards de croissance, parce que nous avons été trop forts. Il n'était pas mûr. On ne donne pas une entrecôte à un enfant de 6 mois. Parce qu'autrement, il va avoir peut-être du mal. Hein. D'ailleurs, vous lui ouvrez un petit peu la bouche et vous allez voir qu'il n'a pas de dents. Bon, ça, c'est des petites constatations toutes simples. Et si on ne comprend pas ça, c'est qu'on n'a pas compris grand-chose. Bon, toujours est-il que ça, eh bien, ça peut provoquer des perturbations pour la suite. Moi, je crois qu'on a quelquefois, et je l'ai constaté en tant que pasteur, on a voulu s'occuper de nouveaux qui sont arrivés, mais avec de belles conversions, d'authentiques conversions. Et on leur a dit, eh bien, ceci, cela, faut que tu sois comme ça, faut que tu sois comme ça. Ben, à un moment donné, on les a plus revus. Hein. Voilà, hein. Ils se sont dit, ben, si c'est ça, parce qu'on a mis, finalement, on a donné l'avantage à la loi, aux règles ecclésiastiques ou aux règles doctrinales, plus qu'à la grâce et à l'amour. Un enfant, il a besoin d'amour, il a besoin de la grâce, tout simplement. Alors donc, on voit que tout cela, eh bien, peut avoir des conséquences sur la croissance. Canaan était nommé le pays où coule le lait et le miel. On le sait, ça revient très souvent, naturellement. Je dirais que Canaan était une sorte de maternelle pour les Hébreux. Eh oui, avant, le désert. Et après, naturellement, tout ça, quand ils sont rentrés, ils ont dû apprendre beaucoup de choses pour grandir. Hein, tout le statut religieux, spirituel, le temple de Jérusalem, l'épopée des rois d'Israël, c'est venu naturellement après une maturation du livre de Josué, du livre des livres, à travers tout un cheminement qui a été proposé. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important de pouvoir signaler. Et le passage dans le désert, ensuite le pays de Canaan, et puis après ça a été l'apogée de certaines choses. Alors ça a été à la fois l'apogée et puis aussi des abîmes. Hein, parce que bon, c'est toujours la même chose. Hein. Ça, c'était cette société d'alors. Hein. Et ça s'appelle l'apprentissage de la foi. C'est une formation pas à pas. Et c'est important finalement eh bien, que nous puissions tout cela nous en souvenir. Il y a un texte que je trouve dans le livre du prophète Ésaïe, et je voudrais simplement le citer, au chapitre 11 et au verset, oui, chapitre 11, chapitre 66, pardon, et verset 11, « Afin que vous soyez nourris, rassasiés, du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. » Ça vient en son temps, tout ça. Et ne pas vouloir, hâter, précipiter, faire marcher de force, tout simplement. Vrai pour un débutant spirituel, vrai peut-être pour celui qui n'est plus un débutant, mais qui a eu aussi, qui a éprouvé beaucoup de difficultés, et bien là, à avancer dans la vie spirituelle, en raison de son passé, en raison de toutes sortes de choses, mais aussi pour un chrétien qui pêche. Parce que là, je ne l'ai pas abordé, mais quelquefois, il y a des choses sur le plan moral, sur le plan comportemental, qui sont des péchés. Le mensonge, par exemple. Hein, et puis, toutes sortes d'autres choses. Quelquefois, des attitudes mauvaises avec les autres. Hein. Alors, là, tout ce qui peut sortir de la bouche, de toute façon. Alors, que faire? Est-ce qu'il faut lui asséner des reproches? Est-ce que, véritablement, eh bien, on le met sous les menaces et les jugements? C'est Dieu qui juge, hein, c'est pas nous. Nous, on peut constater les choses. Mais l'essentiel, notre rôle, et il faut s'en souvenir, c'est de prier. Eh oui, c'est pas de vouloir mettre un tuteur, que l'on soit nous-mêmes, la béquille et le tuteur. Si Dieu nous le demande, d'accord. Mais s'il ne nous le demande pas, restons tranquilles. Si on te demande quelque chose, tu réponds. Et si on ne demande rien, tu te tais. Voilà, vous l'avez déjà. Hein. Et dans Romains, il y a ce texte qui est donc assez significatif, au chapitre 14 que je viens d'ouvrir. Et au verset 4, il est dit ceci tout simplement. Qui es-tu, toi qui juges ton frère ou un serviteur d'autrui? Qui es-tu? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Ce n'est pas à toi de vouloir faire jouer à Dieu dans cette affaire. Mais, il est ajouté, mais il se tiendra debout, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Parce que si c'est Dieu qui l'a appelé, il va le faire tenir jusqu'au bout. Alors, car le Seigneur a le pouvoir de l'affaire Nero, verset 13, il est dit ceci. « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire. » Voilà, on retrouve notre sujet principal. « À ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Bien dit, bien écrit. Et il faut absolument que nous puissions retourner, conserver ce principe. Voyons le comportement de Jésus. Je vais terminer d'ici quelques instants. La Samaritaine, cette rencontre au puits de Sichar que nous connaissons bien, Jean chapitre 4, la Samaritaine dont on peut dire que la vie était tumultueuse. 1, 2, 3, 4, 5, et le cinquième n'était pas encore son mari. Bon, c'était sa vie, hein. C'était une païenne aussi, qui est devenue chrétienne. C'est là justement le but, hein. Faut pas le perdre de vue, hein. Parce que des gens qui nous paraissent un petit peu pas conformes à nos pensées, tout ça, il y en a beaucoup, hein, même parmi nous, hein, qui ont été retirés finalement de l'ornière pour devenir des hommes de Dieu, pour devenir même des pasteurs, pour devenir des gens d'exception et qui aiment Dieu et qui ont aimé Dieu, hein, finalement. Alors, faisons attention à nos jugements. Jésus ne fait aucune moralisation de cette femme. Il n'est pas venu pour lui faire la morale, il est venu pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Oh, quelle bonne nouvelle, elle a cru, naturellement. Donc le but est à atteindre. Il n'a pas jeté à cette femme son passé à la figure. Comment tu t'es comportée, ma pauvre fille? T'as vu dans quel bout tu t'es... Alors, t'as été boxée par des hommes, tu as cru les aimer, mais eux, ils ne t'aimaient pas. Tu t'es trouvée dans une situation épouvantable. Donc, il ne lui a pas parlé de son passé. Il ne lui a pas seulement parlé au présent. Si tu connaissais le don de Dieu, bois de cette eau, tu n'auras plus... Ça, c'est le présent qui lui fait... Voilà. Il l'invite à boire par n'importe quoi, à se nourrir de la parole de Dieu. Le seul souci de Jésus a été l'avenir de cette femme. Et c'est ça ce que nous avons besoin. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a préparé un avenir pour toi. Moi, je ne le connais pas, tu ne le connais pas non plus. Et le Seigneur... Et moi, je ne veux pas mettre une pierre sur ton chemin... pour compromettre l'avenir que Dieu a préparé. Il y a un plan, il y a un dessein pour toi. Que je fasse attention, moi, à ne pas te mettre des barrières là où Dieu t'ouvre les portes. C'est ça la question. Où Dieu, eh bien, t'accueille. Donc, nous voyons que Jésus s'est préoccupé à son devenir de nouvelles créatures qui étaient entre les mains de Jésus et pas des nôtres, pas des hommes, tout simplement. Alors c'est intéressant tout ça. Appliquons la leçon et je vais en finir. Libérons-nous de ces habitudes instinctives liées. Alors là peut-être que je ne suis pas auprès de vous, heureusement il y a un écran entre nous, parce que je vais peut-être me faire couper la tête. Mais bon, je le dis quand même, parce que je suis convaincu que c'est l'enseignement que nous laisse la parole, toujours empreinte de grâce et de pardon de Dieu. Voilà. Libérons-nous de ces habitudes instinctives, irréfléchies, irraisonnables et irraisonnées, liées à nos traditions évangéliques. Voilà, j'ai dit le mot. Voilà. Nos traditions évangéliques, ceci, cela, et où l'on juge peut-être quelqu'un, eh bien parce que, voilà, il est absent, parce qu'il ne vient pas assez souvent, parce qu'il y a ceci, il y a cela, il y a toutes sortes de choses comme ça. Hein. Voilà. Parce qu'il fait ceci, et il ne devrait pas faire cela. Alors, ce sont des traditions évangéliques, et des raisonnements, naturellement, qui respirent de l'égalisme, qui transpirent de l'égalisme. Je voudrais le dire encore, et toute ma vie de pasteur, je l'ai dit et je le redis, parce que j'ai toujours été d'accord avec l'apôtre Paul, le message de la bonne nouvelle, c'est un message de grâce, c'est un message de pardon. C'est un message où Dieu vient à nous et ne nous rejette pas, ne nous culpabilise pas pour nous faire mourir, pour nous tuer. Hein. Voilà, tout simplement. Et nous voyons que tous ces raisonnements légalistes de notre langage pseudo-chrétien, tout empreint de stigmatisation, c'est peut-être pas des bombes qui nous tombent sur la tête ou qu'on fait tomber sur la tête des autres, mais on stigmatise, on essaie là de petites écorchures, petites griffures, hein, petite, pour donner du ressenti en disant, voilà, hein, c'est, on pourrait dire que c'est un traitement homéopathique, mais en espérant que finalement, eh bien, voilà, ça porte son fruit. C'est pas comme ça que Dieu fait. Hein. Dieu est patient, en tous les cas, il est plus patient que nous. Ne cédons pas, ne créons pas de difficultés supplémentaires à ceux qui découvrent le Seigneur. N'entravons pas les premiers pas de la marche de la foi, encourageons-les plutôt dans la liberté de la grâce, dans la liberté que Dieu ouvre devant eux. Soyons des facilitateurs, soyons des conciliateurs, soyons des réconciliateurs, si c'est possible, pleins d'amour et d'accueil. Ça, il faut savoir. Le maître créateur, l'artiste parfait, je parle de Dieu, fait encore et fera lui-même une œuvre de grand prix pour que nous devenions tout simplement, eh bien, des vases d'honneur. Que nous ne soyons plus des vases d'argile, mais que nous soyons des vases d'honneur. La conclusion serait la suivante. Savoir transmettre avec bienveillance. Parce que si Dieu nous a donné une avance sur les autres, dans le temps, dans l'âge, hein, je parle, ce n'est pas une avance spirituelle ou théologique, ou, si Dieu nous a donné, finalement, eh bien, traitons avec bienveillance. Parce que c'est comme planter des arbres, sous lesquels on n'y sera peut-être jamais assis à l'ombre. Parce que l'arbre, il est tout petit quand on plante. Et nous ne serons peut-être plus là quand il sera grand. C'est-à-dire qu'il faut voir beaucoup plus haut. Il faut le voir avec la perspective que les choses de Dieu se font dans le temps. Un mois, une année, 10 ans, 100 ans, peut-être plus. Imaginez-vous tous les grands hommes de la Bible. Ils ne pouvaient pas s'imaginer que 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans après, je pense au premier, hein, que finalement on en parlerait encore, leur nom serait encore mémorisé, parce qu'ils ont été des hommes de Dieu, des hommes de foi, ils ont fait des erreurs, mais néanmoins ils nous ont laissé un héritage. Et cet héritage, eh bien, nous en parlons encore aujourd'hui, c'est là-haut que nous verrons les choses. Alors, ayons cette perspective, finalement, du temps présent, d'un avenir proche, mais d'un avenir hein, qui sera beaucoup plus long pour arriver justement eh bien, à cette dimension éternelle. Parce que les principes de la vie de la foi, et je souligne, dont nous sommes les héritiers, de ceux qui étaient avant nous naturellement, hein, deviennent pour ceux qui nous suivent, après, des fleurs. Eh oui, deviennent pour nous des fleurs qui produiront en leur temps, et vous savez pourquoi les fleurs sont les fleurs, en leur temps et à leur tour, de nouvelles semences de vie. Nous, on ne sera plus là depuis longtemps, hein. On ne sera pas assis sous notre arbre que nous avons planté hein, il y a 300 ans, hein, parce que l'arbre sera encore là, mais moi je ne serai plus là, hein, de toute façon. Hein. Ils vont devenir eh bien, de nouvelles semences de vie. Alors, en raison de cela, nous avons besoin de veiller à faciliter, à favoriser le développement d'une action. Le développement d'un, tout simplement, eh bien là, de favoriser dans le fond et dans la forme, et savoir s'occuper, savoir tout simplement, eh bien, prendre soin, aider les autres, est un art, comme le fameux artiste au départ, et c'est Dieu qui va mettre la touche, c'est lui qui donne la vision, c'est lui qui donne la vision finale, c'est lui qui donne à chaque, eh bien là, comportement de l'artiste, eh bien, de faire les choses comme il faut. La mission de faciliter le développement d'une action, donc d'un processus, je le répète, un processus de croissance d'une personnalité, soit-elle avant tout spirituelle, pour nos enfants, eh bien, leur donnons l'avenir, pour qu'ils soient des hommes sur cette terre, mais une personnalité spirituelle, avec des relations harmonieuses en vue d'épanouissement de leur foi et de leur développement, pour que là, eh bien, de fleurs, ils produisent des fruits, et qu'ils produisent finalement des graines, et que les graines vont donner finalement eh bien, là, des fruits. Et dans le fruit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le renouvellement à perpétuité. Le monde ne s'arrête pas, hein, ça continue. Hein. Dans ce monde de grande complexité, et on peut le constater tous les jours, pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? Et oui, c'est ça. Quand on voit la société d'aujourd'hui, pris dans sa technique, dans sa technologie, pris dans ses méandres, ses comment pourrait-on dire, ces labyrinthes administratifs, tout ce que l'on peut voir en politique, dans le monde social de contestation, dans ceci, dans cela, etc., etc. Moi, je pense que l'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas dans cette dimension du paradis terrestre auquel il aspire. Mais il se trouve dans une prison. Il se trouve enfermé, il se trouve lié. On entend tous les jours le mot liberté dans les médias, tous les jours. Et moi, ça me fait penser, nous voulons la liberté de ceci, nous voulons la liberté de cela. Parce qu'il parle d'une liberté extérieure. Et moi, je pense souvent, je dis, mais mon pauvre ami, tu prétends la liberté alors que tu es enchaîné à l'intérieur de toi-même, dans tes doctrines, dans tes là, comportements, dans ce formatage de la société, je veux manger, je veux boire, je veux m'amuser, je veux ceci et cela, et surtout lié avec les atavismes du péché, à travers des passions qui sont avilissantes, mais dont tout le monde tolère, quelque part. Parce que comme tout le monde regarde l'un et l'autre, et bien il se dit, je suis un peu plus mauvais que le précédent et celui qui me fait face. Donc voilà, en quelque sorte, prenez soin, nous dit la Bible, ayez soin des uns des autres. Et je pense qu'il ne faut pas mettre de difficultés supplémentaires et inutiles à nos frères et à nos sœurs, et de leur créer des perturbations et des troubles. Écoutez, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés aux uns, d'une manière, d'une façon, et puis, il nous a paru bon, Saint-Esprit à nous, de ne pas imposer d'autres charges que ceux d'aujourd'hui. Parce que chaque jour suffit sa peine, hein, c'est pas la peine d'en rajouter, de ce qui est nécessaire. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et que véritablement, eh bien, nous puissions être sages comme des colombes et prudents comme des serpents, nous dit l'Évangile, à travers la bouche de Jésus. Merci.